Bien, bonsoir. Bonsoir Michel Denisot.
Bonsoir Yves.
Merci d'être venu à Bordeaux jusqu'à nous.
Merci.
Voilà, donc je vais pas vous présenter, parce qu'il y a des gens qu'on ne présente pas. Devant ce public qui est venu pour vous et par vous, je ne vais pas me risquer à ça. Je vais juste simplement me faire juste une minuscule préambule. C'est que bon, le livre de Michel Denisot a été baptisé très modestement « Bref de vie ». En fait, quand on fouille un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas « Bref de vie », parce que ça s'appellerait plutôt « Vie multiple », tellement il y a de choses à raconter, tellement il y a de choses à découvrir, et très certainement de choses que l'on devine et qui ne sont pas dites. Mais ça, on y passera tout à l'heure. Et puis surtout, il y a une consécration derrière ce livre, une consécration derrière laquelle courent beaucoup d'hommes, des hommes politiques, les plus puissants de notre pays, et que Michel Denisot a obtenu. Il a obtenu, à l'inverse de quelques-uns de nos grands dirigeants, sa marionnette au guignol. Et ça,
c'est pas rien. Ouais.
J'ai noté cependant que vous ne parlez pas de votre marionnette au guignol.
Non, bonsoir. Et en fait, non, c'est pas un livre sur moi, c'est un livre sur les autres.
Mais la marionnette, c'est un autre.
Oui, elle ne me ressemble pas du tout. Je suis comme tout le monde. Les guignols me font rire, je trouve qu'ils sont très justes, sauf quand ils parlent. C'est moi. Et c'est ce que pensent tous les gens qui sont au guignol, que c'est vraiment très drôle et que c'est très précis, ça ressemble vraiment aux autres, quand c'est les autres, mais quand c'est soi, on ne se reconnaît pas toujours. Mais bon, je me suis habitué, évidemment, parce que je les côtoyais beaucoup. Mais c'est vrai que dans ce livre, c'est un livre sur les autres, et c'est aussi, évidemment, une façon en creux de parler de soi d'une certaine manière.
Bon, c'est vrai, ça dit, il faut faire un masque entre Buster Keaton et Droopy, c'était pas très sympa. Enfin, ça, c'est autre chose. Bon, après, il faut croire quand même qu'il y a de bonnes étoiles, parce qu'on va commencer par le commencement. C'est un livre sur les autres, mais les autres, vous les rencontrez très tôt, parce que vous êtes né à Châteauroux. Et à Châteauroux, très jeune même, vous rencontrez quelqu'un qui est un monstre sacré. Il ne le sait pas encore, mais ouais. Vous le devinez.
Oui, enfin, oui, c'est vrai, je suis né à Châteauroux, enfin à côté de Châteauroux, et j'ai commencé à savoir très tôt ce que je voulais faire dans la vie, ce qui est une chance. Et j'ai pu le faire, c'est-à-dire être journaliste. Et j'ai commencé à l'âge de 15 ans, frapper à la porte d'un des deux quotidiens locaux et de faire un stage pendant l'été. Et j'ai commencé à écrire deux lignes dans un journal. Et pour moi, c'était le rêve de ma vie. Enfin, à ce moment-là, et donc j'ai su ce que je voulais faire, et donc j'y ai consacré tout mon temps, au détriment de l'école où j'étais jusque-là un bon élève, et après, donc j'ai un peu laissé filer, et c'est vrai que à l'époque, c'était donc il y a très très longtemps, parce que je suis né en 1945, donc 45 plus 15, ça fait 60, donc là, il y avait des sténos dans les journaux, ça n'existe plus à Sud-Ouest non plus aujourd'hui, et il y avait des sténos qui tapaient les textes, et la sténo s'appelait Hélène Depardieu, s'appelle toujours Hélène Depardieu, c'était la sœur de Gérard, donc c'est une famille nombreuse, et j'ai connu Gérard Depardieu très tôt, parce que c'est à ça que vous faisiez référence, évidemment.
Voilà, absolument, ce qui est très drôle, plus ça y reviendra quand vous allez égrener les souvenirs que vous racontez dans votre livre, ce qui est très drôle, c'est de voir en fait comment, à travers ce que vous racontez, comment Depardieu très jeune est déjà Depardieu très vieux. C'est-à-dire que grosso modo, il n'a pas bougé.
Il a pris un peu de poids. Mais il est le même. Il a un mode de vie qui est très atypique, qui déclenche souvent des critiques aujourd'hui. Mais il est le même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un besoin de liberté totale, qui assume absolument tout ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, y compris dans ce qu'il fait lui. Il y en a d'autres qui le font et qui le disent pas. Lui, il assume tout. Et après, c'est vrai que la réussite et sa carrière cinématographique qui est énorme, et après son mode de vie qui est particulier, font qu'il est perçu différemment. Mais moi, ce que je dis dans le livre, c'est un ami. Enfin, on n'est pas amis à se voir tous les jours, mais on a gardé une relation amicale à travers les années. Et donc, on peut se voir tous les jours pendant 8 jours et ne plus se voir pendant 6 mois. Mais j'ai trouvé la description qui va bien. C'est un ami, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et que vous aimez quand même. Et voilà, donc c'est le cas.
Mais surtout, détail en avant, surtout quand il raconte devant tout le monde que vous vouliez des mobylettes.
Oui, mais ce qui n'est pas vrai. Il ment un peu. C'est vrai qu'un jour, à un moment donné, il y a moi, je suis d'origine assez modeste aussi. Et, donc, je suis parti à Paris, comme tout le monde qui arrive à Paris, chambre de bonne et puis un petit boulot. Je coupais les dépêches à la télévision. Et à un moment donné, après, bon, les choses ont évolué. lentement mais sûrement. Et puis un jour, je me suis retrouvé au Bourget, quand j'étais président du PSG, à partir en avion privé pour aller voir un match à Turin. Et lui, il arrivait dans un autre avion privé. C'est vrai que par rapport à nos vies de jeunes à Châteauroux, ce n'était pas du tout ça. Et donc, il a dit, tu te souviens quand on volait des mobilettes? Mais lui, il volait des mobilettes, mais pas moi. Voilà.
Bon, et donc, on va rythmer votre vie avec les rencontres, parce que finalement, d'accord, il n'y a que ça, les rencontres. Ouais. Puis en plus, on a des rencontres merveilleuses. Et alors, très rapidement, vous rencontrez, ce que je trouve très joli dans Brève de vie, vous rencontrez aussi bien des anonymes, parce qu'à côté de Depardieu, c'est son frère qui a beaucoup compté, manifestement.
Oui, un de ses frères, parce qu'il a plusieurs frères et sœurs, un frère qui s'appelle Alain. Il trouvait qu'Alain, ce n'était pas assez bien, il se faisait appeler Bob, qui était mieux. Et ils ont été longtemps proches, et puis maintenant, ils sont un peu à distance. Mais Alain était long. Quand on est arrivé à Paris, on était tous dans le même quartier, on allait dans le même quartier, rue Mouffetard. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, je travaillais dans un bar le soir pour gagner un peu d'argent. Et ils étaient dans le coin aussi, et on se retrouvait tous là. Et donc, il y avait Gérard et d'autres personnes, d'autres jeunes à l'époque de Châteauroux. On était un petit clan à se retrouver au même endroit. Et Alain était là aussi. Il a coproduit les premiers films de Gérard aussi à ce moment-là.
Il y avait quelqu'un aussi dont vous parlez, mais très, très rapidement, mais qui a l'air de une aura moins jeune, qui s'appelait Jackie Merveille.
C'était oui.
Mais c'était son vrai nom, Jackie Merveille?
Oui, c'est un nom merveilleux, j'allais dire. C'est vrai que très tôt, Gérard a souvent marché en binôme, et on le retrouve après dans sa vie artistique aussi et dans sa vie personnelle. À Châteauroux, il y avait un duo de deux types qui, à 14 ans, étaient bâtis comme des adultes et des balèzes, et qui étaient des espèces de James Dean de l'époque, version Châteauroux. Et Gérard marchait en binôme avec Jackie Merveille, qui était le frère d'un de mes copains. Et les deux, quand ils marchaient, il y a une rue qui fait 200 mètres dans le centre de Châteauroux, et qui est l'avenue Victor Hugo, où c'est là que ça se passe, quoi. C'est là où il faut se montrer, c'est là où on s'impose. Et les deux, quand ils marchaient là, ça dégageait bien. Et Jackie Merveille est mort un peu comme James Dean, mais toujours à Châteauroux, toute proportion gardée, un accident de voiture, il est passé par-dessus le parapet d'un pont, une voiture américaine, parce qu'à l'époque, Châteauroux était la plus grande base de l'OTAN en Europe, il y avait 5000 Américains, donc on vivait quand même dans un monde très particulier, alors qu'on est vraiment au fin fond du centre de la France, et là, on vivait au milieu des Américains, moi, j'habitais dans une cité avec des Américains, etc. Et donc, Jackie Merveille est mort, un accident, une voiture américaine, par-dessus un parapet qui s'est enfoncé dans l'Indre, et il est mort comme ça. Et après, j'ai retrouvé une similitude dans son duo avec quand il a fait Les Valseuses avec Patrick Devers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film. Et c'est vrai, quand il a fait Les Valseuses avec Patrick Devers, qui était son premier grand succès, à Châteauroux, on a dit, c'est pas un film, c'est un documentaire. Que ça ressemblait tellement à ce qu'il est que ça voulait pas dire qu'il était acteur.
Et sur à propos de votre jeunesse à Châteauroux, est-ce que c'est avec la fréquentation des bases américaines que vous avez été piqué par le virus du cinéma?
Non, j'ai pas. Enfin, le virus du cinéma, je l'ai eu peu. Je suis curieux de tout. Quand je définis mon métier, c'est curieux, quoi. Je suis spécialiste de rien. Mais je m'intéresse à tout. Et je peux plonger en piqué sur un... Je passe les étapes. Je me suis marié il y a 40 ans. Je n'allais pas voir un match de foot. Ma femme était surprise quand je suis devenu président du PSG, parce que d'un seul coup, c'était quand même une autre forme de vie. Donc, je peux très bien lâcher un intérêt parce que j'en trouve un supérieur. Donc, le cinéma, peu à peu, je m'y suis intéressé, mais je n'étais pas un cinéphile. Et c'est au fil de mon travail... à TF1 d'abord, et puis ensuite beaucoup à Canal+, évidemment, que j'ai plongé dans le monde du cinéma, que j'aime beaucoup. En fait, j'aime surtout les gens qui font le cinéma. Et je vois beaucoup de films. Quand j'ai fait Le Grand Journal, je voyais à peu près 1000 films par an, donc c'est pour vous dire que ça fait beaucoup. J'ai pas vu que des chefs-d'œuvre, hein, donc j'ai vu beaucoup de films. Mais les gens qui font le cinéma sont parfois mieux que les films.
Mais ça dit, vous disiez que votre épouse a été surprise quand vous dites que vous l'avez, quand elle a découvert que vous aimiez le foot, mais le sport, c'est votre première passion quand même.
C'est les premiers reportages que je faisais à Châteauroux, c'était sur des matchs de foot.
Mais c'est parce que vous aimiez ça ou
pas? Oui, j'aimais ça. Bon, mon père aimait le foot. Bon, j'ai perdu mon père très tôt, mais il aimait le foot. C'était une passion de la famille du côté de mon père, comme dans beaucoup de familles. Et j'avais cette passion, j'aimais ça, j'ai joué un peu au foot. Et puis après, j'étais journaliste sportif. Pas tout de suite, parce que quand je suis arrivé au service, j'ai fait mon service militaire, donc après j'étais à la radio à Limoges, Et j'ai cherché du travail, donc il n'y avait pas de boulot. Donc j'ai pris le poste qui était vacant. J'étais journaliste agricole pendant 2 ans. Donc j'ai fait, vous voyez, on peut être journaliste agricole à directeur de Vanity Fair 50 ans après, ce qui est quand même un grand écart.
Mais j'ai toujours de culture.
Les adducteurs sont solides. Et donc j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'étais journaliste agricole pendant 2 ans et je sillonnais le Limousin, notamment la Corrèze, où c'est là où j'ai commencé à connaître Jacques Chirac, qui était déjà un frétillant secrétaire d'État à l'agriculture.
Frétillant, c'est joli. Surtout quand on connaît son surnom, d'ailleurs.
Oui, voilà, bon. Et donc, je me suis intéressé à ça. Après j'ai pas toujours choisi. J'aime mon métier. Je ne suis pas focalisé. J'aime relater des faits. Pour moi, le journalisme, il y a 2 formes de journalisme, c'est relater les faits et les commenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les relater de la façon la plus précise et pas d'éditorialiser. C'est un autre métier qui n'est pas le mien. Dire c'est bien, c'est mal, il y a des gens qui font ça très bien. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est d'informer les gens de façon précise pour que chacun puisse se faire ensuite sa propre opinion. Donc, c'est ça que j'ai aimé et j'aime ça dans tous les secteurs. Donc, je l'ai fait dans l'agriculture pendant 2 ans. Après, quand je dis que j'ai c'était une époque où on pouvait trouver du travail facilement quand j'ai débuté dans la vie professionnelle, que j'ai aucun diplôme. Et ce que je dis, que j'ai réussi que les concours de circonstances. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de circonstances qui sont présentées et que j'ai saisies parce que j'en avais envie, quoi. J'aimais mon travail et je suis passé de journaliste agricole à journaliste d'infogéné régional. Et puis j'avais pas d'ambition. Ce que j'aimais, c'était exercer mon métier. Si à Châteauroux m'avait gardé parce qu'il y avait de la place, je serais peut-être encore. Donc, j'aurais été très heureux, sûrement pas malheureux non plus, quoi. Donc, et après, j'ai commencé la télévision régionale à Limoges par accident. C'est-à-dire qu'il y a un jour d'été, j'étais là et il y avait ceux qui faisaient la radio et puis les vedettes qui faisaient la télé, quoi. Donc la télé régionale. Et un des présentateurs de la télé régionale, un soir d'été, avait un rendez-vous galant à 19h. Et auquel il tenait beaucoup, et les patrons étaient en vacances, il me dit « tu vas me remplacer ». Donc je l'ai remplacé au journal télévisé régional, sans être validé par la direction. On s'est fait engueuler le lendemain tous les deux, et j'ai continué. Voilà, donc c'était des choses comme ça qui me sont arrivées de temps en temps.
Alors, bon, finalement, puisque vous parlez de rencontres, il y en a une qui vous a marqué, oui, je pense, parce que je l'ai rencontré également, et moi aussi, il m'a marqué. C'est un des premiers journalistes sportifs qui vous donne un conseil, c'est Roger Coudert. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Roger Coudert?
Après, donc, j'ai travaillé dans les stations régionales, et puis j'ai fait des remplacements. J'ai même fait des remplacements à Bordeaux, il y a très, très longtemps, à l'époque de Gérard Berlier. Je ne sais pas si quelqu'un a connu Gérard Berlier, voilà, d'accord. J'ai fait trois mois à Bordeaux à l'époque. Je faisais des remplacements parce que je n'avais pas de poste fixe, donc j'allais où il y avait du travail. J'ai fait Bordeaux, j'ai fait Reims, j'ai fait Marseille. Et puis à un moment donné, je dis, je vais essayer d'aller à Paris. Donc je suis reparti à... J'avais une situation moyenne, mais pas terrible. Et je suis reparti à Paris à zéro. Donc à l'époque, les vedettes, c'était de la télévision. C'était entre autres Roger Coudert. Et je vais au sport dire bonjour. J'arrive tout doucement, je coupe les dépêches. Et il me dit 3 mots gentils. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être journaliste sportif éventuellement. Tu veux faire du direct? Oui, j'aimerais bien. Alors je vais te donner un conseil. Le premier jour où tu fais un direct, comment tu t'appelles? Alors je dis mon nom, Deniso. Il dit, alors on va t'appeler, à vous Michel Deniso. Tu réponds pas. Je dis, ah bon? On va te rappeler une deuxième fois. À vous Michel Deniso. Tu réponds pas. Tu réponds que la troisième fois, comme ça tu vas être connu très vite. Je ne l'ai pas fait tout de suite.
Vous ne l'avez pas fait tout de suite, vous avez intégré pratiquement très rapidement le service des sports.
Oui, en fait, j'ai intégré le service des sports. J'ai fait le journal de 13h avec Yves Mourouzi, qui était pour moi une des grandes... comme j'ai appris au fur et à mesure à travailler en regardant les autres qui étaient au-dessus de moi. Et donc Yves était une référence journalistique de télé pour moi très importante et quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et qui m'a appris beaucoup à cette époque-là, avoir de l'audace. Tous les matins, il avait envie qu'on fasse ce qui n'était pas possible et d'avoir la personne qu'on ne pouvait pas avoir, etc. Donc il m'a appris à mettre ce qu'on essaye de faire, la barre très très haut tous les jours. Et même si on ne franchit pas tout à fait la barre tous les jours, si on tente quelque chose de haut, on saute déjà plus haut que si on n'essaye pas. Et donc j'ai beaucoup appris de lui.
Et donc le service des sports...
Et puis après les sports, oui.
Oui, les sports, mais alors surtout au sport, l'un des premiers... Enfin, je ne sais pas si c'est l'un des premiers, mais enfin, vous avez été très rapidement commentateur de foot. Moi, je m'en souviens, donc j'imagine que tout le monde s'en souvient à peu près. Et surtout, vous avez commenté, ce qui est drôle quand on sait ensuite votre vie, le premier match en direct du PSG, je crois.
Oui, j'ai commenté la première finale de Coupe de France du PSG, oui, gagnée par le PSG, je crois, contre Saint-Etienne à l'époque. Mais je ne savais pas du tout que j'allais... J'ai même, à un moment donné, je travaillais aux Infogénés, j'ai même commenté, fait un sujet pour le 20h sur l'inauguration du Parc des Princes. Et je ne pensais jamais qu'un jour, je serais président aussi du Parc des Princes, évidemment. Je n'avais pas d'idée. Je vivais, pas au jour le jour, c'est beaucoup dire, mais je prenais les choses comme elles arrivaient. Et tous les jours, j'ai beaucoup travaillé tout le temps, parce que j'ai toujours eu peur de manquer de travail. Donc, j'ai eu la chance de ne pas en manquer, mais je prenais tout ce qui se présentait pendant très très longtemps et comme j'aime un peu tout, c'était pas très compliqué, quoi. J'ai une assez bonne nature pour ça, et c'est vrai que le sport est un fil rouge, souvent, parfois en pointillé dans ma vie professionnelle, mais ça a été important. C'est vrai que j'ai fait les premiers matchs du PSG, je pensais pas du tout que X années après, en 91, je deviendrais président du club pour 7 ans.
Alors, quand vous êtes président du club du PSG, c'est pas une aventure tout risque, ça se risque quand même.
C'est une aventure pleine de risques. Ouais. Ouais.
Donc, on va y revenir, parce que vous avez tout connu au PSG. Vous avez connu les jets privés, les joueurs capricieux. Et vous avez même connu un marabout.
Oui. j'ai connu un marabout que... l'épisode, c'était... On jouait un match de Coupe d'Europe en Roumanie. Et on a fait jouer, sans le savoir, un joueur qui était suspendu, donc... Et même nos adversaires ne le savaient pas, ça avait échappé un peu à tout le monde, enfin à nous en premier. Et quand la feuille de match est arrivée à l'UEFA, ils ont constaté qu'on avait fait jouer un joueur suspendu. Donc on a match perdu, 3-0 sur tapis vert, comme on dit dans le jargon sportif. Et tout le monde se moque de nous, à juste titre. En plus, Paris, Canal+, etc. Donc tout le monde se fout de notre gueule, pour être clair. Donc il y a un match retour qu'il faut gagner par plus de 3-0. Gagner 4-0 minimum. Et donc, c'est compliqué. Les joueurs réagissent assez bien à cette bourde importante. Et puis, j'avais dans mon staff, à l'époque, un entraîneur, un directeur sportif qui exerce encore, qui entraîne le Congo en ce moment à la Coupe d'Afrique, qui s'appelle Claude Leroy, et qui avait beaucoup bourlingué en Afrique, et qui me dit, écoute, il y a les marabouts qui m'appellent là, pour le match et tout. Je dis, écoute, moi, je prends tout. Et on est dans une telle situation inqualifiable que... Un camion de cierge à Lourdes, un marabout, tout ce que tu veux, je prends tout ce qui est légal. Donc je rentre en contact avec le marabout, avec Claude, et je découvre Western Union, c'est-à-dire les modes de paiement à la poste pour qu'il arrive au Sénégal, etc. Bon, très bien, ça ne coûtait pas des fortunes, hein, mais enfin, surtout compte tenu de l'enjeu. Et le marabout, 3-4 jours avant, me dit, c'est pas, je ne vois pas clair, ça ne va pas aller et tout. Et puis, 2 jours avant le match, il me dit, ça s'éclaircit. On a fait des sacrifices et tout, ça s'éclaircit. Donc j'ai remis de l'argent à la poste. Et puis la veille du match, il m'annonce 5-0. Je dis, alors ça, c'est incroyable, 5-0. Et il me dit, je vois très, très bien 5-0, il n'y a pas de problème. Et il me dit, 4e but, 42e minute, numéro 18. OK. Donc, je garde ça pour moi, parce que, bon, quand même pas très... je pense qu'il y a sujet à moquerie, éventuellement. Et puis, le numéro 18, c'était un avançant qui s'appelle Florian Maurice. Et le jour du match, on est toujours là, tous ensemble, des jeunes, on attend que ça se passe, quoi. Et puis je vois Florian Maurice, j'avais parlé à personne, je lui parle de ça, je dis, écoute, je vais te raconter un truc, je garde ça pour toi, marabout, numéro 18, c'est toi, 3e but, 42e minute. Ouais, d'accord. Le match démarre très fort, 1-0, 2-0, 42e minute, 3e but, Florian Maurice. Et là, bon, tout le parc chavire, parce qu'on est sur une bonne c'est bien parti, et Florian Maurice, bon, il savait où j'étais assis dans les tribunes, il se tourne vers moi, il me fait, ah, comme ça, c'est incroyable. Et il rentre au vestiaire et il raconte à tous les joueurs ce que je n'avais pas osé raconter. Il me dit, ouais, Michel m'a dit ça, donc on va gagner 5-0. On a gagné 5-0. Et alors j'ai raconté ça, il y a malgré tout des gens qui ont commencé, continué à dire, ouais, d'accord, t'as raison, t'es gentil, Tapi m'a dit combien t'as payé l'arbitre, enfin bon, j'ai tout entendu. Et il y avait des présidents de club qui ricanaient un peu, malgré tout. Et puis, 3 mois après, il y a le président du Havre, à l'époque, qui perd 4 matchs de suite. Il m'appelle et me dit, t'as pas le numéro du marabout, là? Il a pris le numéro du marabout, il a gagné le match d'après. Bon, je suis pas l'agent du marabout, hein. Mais là, comme j'en parle beaucoup dans tout ce que j'ai fait en promo pour le livre depuis qu'il est sorti, dans les émissions de télé et tout, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé le numéro du marabout, que j'avais perdu parce que j'avais jamais eu recours à lui. Mais comme je parle de lui et qu'il est malin, il m'a rappelé, j'ai son numéro.
Alors, avec la dédicace, vous avez le numéro du marabout.
J'ai donné le numéro déjà à quelques personnes. C'est sûr, dont la demande m'a surpris, mais voilà.
Alors, dans les tribunes du Parc des Princes, on ne rencontre pas que des marabouts, on rencontre aussi des présidents de la République.
Oui.
Et alors, l'une des rencontres qui vous a le plus amusé, c'était Chirac.
Chirac était quelqu'un que, moi, j'aime beaucoup les blagues, de, pas toujours de bon goût, donc, et je partageais ce plaisir avec Jacques Chirac, qui était là-dessus assez marrant. Et donc, moi, 91-95, j'étais président du PSG de 91 à 98. Dans les 91-95, Jacques Chirac était maire de Paris, donc c'était avant qu'il devienne président. Donc, maire de Paris, il avait du temps. Et donc, moi, je le connaissais depuis Limoges, on avait toujours gardé, on n'était pas amis non plus, mais on gardait, vous savez qui j'étais, une relation. Et donc, il m'a invité à dîner de temps en temps à la mairie pour passer le temps, quoi. et donc, il y a des anecdotes assez marrantes. Sur le foot, en fait, Platini définit assez bien Jacques Chirac. Il dit « Jacques Chirac aime les sportifs, et à l'époque, c'était Lionel Jospin, aime le sport ». Jacques Chirac, il ne connaît pas bien le sport, mais il aime les sportifs, il aime les gens, il aime tout ça. Et Jospin connaît bien le sport, mais il est moins chaleureux. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, et donc, c'est un peu vrai avec les Français, d'ailleurs.
et donc, un jour, pour ceux qui connaissent le foot, donc j'étais assis au premier rang, président, le maire de Paris. Donc, de temps en temps, on discutait pendant le match. Et on marque un but, et il me dit « Qui a marqué ?» Je dis « C'est bravo ». Il me dit « Oui, mais bravo qui ?» Donc, c'est vous dire la connaissance des joueurs. Et puis après, des blagues, il y en a beaucoup sur lui, quoi.
Il y a une autre qui est extra-sportive, racontez-la aussi, parce que moi, elle me fait mourir de rire. C'est l'histoire du chien.
Ah oui. Donc, un soir, je dîne à la mairie de Paris avec lui, et puis on parlait de la pluie, du beau temps, puis il me parle de son chien. Il me dit « Ah, j'ai un chien. » Je dis « Ah, je ne sais pas que vous aviez un chien. » Puis il appuie sur la sonnette, le maître d'hôtel arrive, dit « Vous pouvez amener le chien, s'il vous plaît. » Puis il rentre un labrador, c'est dans le grand salon d'hôtel de ville, qui commence à courir partout. Il l'appelle « Ducon, Ducon, viens ici. » Je dis « Mais vous appelez votre chien Ducon ?» Il me dit « Oui, oui, c'est Giscard qui me l'a offert.
»
J'en ai une autre de Chirac. Les gens qui ont le pouvoir sont toujours flattés toute la journée par beaucoup de courtisans. Et une personne un jour lui dit « Ah, vous avez bonne mine, monsieur le président, c'est bien. » Et lui répond « Et encore, t'as pas vu le crayon. » Voilà, donc il était assez agréable dans la vie. Quoi.
C'est vrai, je peux en témoigner, je l'ai suivi pendant une campagne présidentielle en 98, en 88, pardon. Et c'est vrai que même perdant, il était drôle.
Bon. Mais la plaisanterie permet, les gens qui racontent des blagues, c'est toujours aussi une façon de se cacher, de masquer quelque chose, mais c'est aussi une façon parfois de dégoupiller des situations un peu tendues. C'est bien placé, c'est utile.
Alors, on va revenir aux gens que vous rencontrez pendant votre carrière. Donc, l'une des choses qui a été déterminante dans votre vie, dans votre carrière, c'était Canal+. Comment vous êtes arrivé à Canal+? Qu'est-ce qui a fait
Par hasard, c'est-à-dire que Canal+ a été créé en 84. Ça a été la chaîne de ma génération. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, aujourd'hui, c'est évidemment, les choses changent, mais en 84, c'était Pierre Lescure qui était directeur des programmes au départ de la chaîne. Donc, on a le même âge, et avec qui j'avais travaillé à RMC à une époque, que j'avais connu à Antenne 2, parce que j'étais un peu partout dans ma vie, toutes les radios, toutes les télés, plus ou moins. Et donc, on avait gardé un bon contact. Et il m'appelle pour me... À l'époque, je commençais à bien m'en sortir à TF1. Je faisais le dimanche après-midi une émission de cinéma, de musique, qui s'appelait Champion, qui a duré un an. Et donc, j'allais bien. Et je faisais des émissions à RMC aussi. Et donc, il me demande si je peux venir à Canal+ pour faire quelque chose. Alors, c'était tellement nouveau. Il n'y avait que trois chaînes. Hein, ça paraît bizarre aujourd'hui, hein, mais il faut resituer dans le contexte. Il n'y avait que trois chaînes. Il y avait une quatrième chaîne, les trois chaînes de service public. Donc, quand même assez lourde, un peu figée et tout, avec beaucoup de respect par rapport à tout. Et donc là, il y avait quelque chose, un appel d'air formidable, qui était... mal perçu par la presse à l'époque, et parce qu'on disait les gens ne paieront jamais pour voir la télévision, comme on a dit on ne paiera jamais pour prendre une autoroute. Quoi. Donc c'est vrai que c'était une démarche qui ne paraissait pas évidente. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'équipe et l'idée. L'idée d'une certaine souplesse, pour ne pas dire liberté, parce qu'on n'était pas embrigadé non plus avant, mais plus d'air, quoi, de grand air. Et donc je démarrais, j'y allais pour... faire un programme qui n'existait pas encore à la télévision, qui était la télé du matin, c'était avant Télématin de William Lémergie, si vous dire que c'est pas hier. Et donc, et monter une équipe pour le sport. Et donc, c'est moi qui ai recommandé de prendre Charles Bietri, de monter l'équipe de sport, et puis de faire la télé du matin à ce moment-là. Donc, j'y étais J'y étais là, pareil. Je me souviens de la une de France Soir, le premier jour de Canal+. C'était Canal+, c'est déjà l'échec. Donc ça démarrait très bien. Et pendant 6 mois, c'est vrai qu'il y avait 180 000 abonnés, les décodeurs ne marchaient pas bien. Et on était donné comme mourant, enfin, comme n'allant pas au-delà de quelques mois. Et puis, ce que je raconte aussi, même Fabius, parce que la chaîne, le fondateur de la chaîne, c'était André Rousselet, qui était un proche de François Mitterrand. Et dans toutes les familles politiques, il y a aussi des animosités internes. Donc, Laurent Fabius n'aimait pas trop André Rousselet. Et comme la chaîne ne marchait pas, il avait commencé à vendre la chaîne à Berlusconi, à l'époque. Et puis, et au moment où ça ne marchait pas, on cherchait quelque chose pour nous faire connaître mieux. Et là, Coluche était au top en 84-85. Il lançait les Restos du Cœur, il était à Europe tous les après-midi. Donc, la chaîne a contacté Coluche. Et Coluche, qui était copain avec Fabius, pensait que la chaîne allait fermer, des chiens pas et tout. Et puis Paul Lederman, qui était l'agent de Coluche, disait « ça serait bien qu'il vienne quand même, il faudrait lui montrer que vous l'aimez et tout », ce qui n'était pas difficile, que c'était vrai. Et donc j'étais mandaté pour suivre Coluche un certain temps, pour essayer de le faire changer d'avis. Donc à l'époque, Coluche faisait du stock-car, c'était son hobby de l'époque, tous les week-ends dans le nord de la France. Donc je partais avec ma femme faire du stock-car dans le nord de la France. Bon, il avait vite compris pourquoi je venais. Et donc on a retransmis du stock-car. Et puis au bout de 2 mois, il est venu à Canal. Et voilà. Et donc quand on a conclu avec Coluche, Paul Lederman m'a fait ce commentaire que je cite. Et il me dit, mais t'es juif, t'es vachement fort. Je dis, ben non. Et il me dit, t'aurais mérité de l'être. Et donc Coluche a fait beaucoup pour faire connaître la chaîne, parce qu'il utilisait l'antenne d'Europe l'après-midi. C'était vraiment, à l'époque, c'était un phénomène extraordinaire. Et il parlait autant de Canal, des Restos du Cœur. Il a beaucoup contribué à faire déclencher les abonnements à ce moment-là. Voilà.
Avec le sport et le film crypté du samedi soir.
Oui, le film crypté du samedi soir, qui à l'époque était, aujourd'hui c'est une banalité, du porno il y en a partout, mais à l'époque il n'y en avait pas partout, et il y en avait pas, c'était pas accessible pour tout le monde. Et je me souviens, moi j'ai une maison dans l'Indre à la campagne, et quand j'étais après président du PSG, je rentrais souvent le samedi après les matchs vers 2h du matin, et je passais devant la maison de mon voisin, c'était allumé.
Il regardait le foot.
Bah ouais. Et c'est vrai que dans les villes, dans le monde rural, c'était pas, l'accès était moins commode. Donc là, ça rendait service à des gens.
Mais cela dit, vous racontez, c'est assez drôle, la description de Mitterrand qui passe impassible.
Oui. Oui, parce qu'on est au début, on était dans le 15e arrondissement, dans un immeuble qui n'était pas fait pour faire de la télévision. Donc on démarrait, quoi. Donc on est dans des bureaux avec des écrans, des caméras et tout. Et puis quand ça commençait à marcher au bout d'un an, donc le premier signe de réussite d'une chaîne de télé, c'est toujours d'avoir sa salle de projection privée. Donc on a eu une salle de projection dans un garage qui était arrangé. La salle était très bien. Et donc André Rousselet invite François Mitterrand un samedi soir à venir voir une projection de film dans cette salle qui était en sous-sol. Et dans le hall d'entrée de Canal, il y avait un écran grand comme le mur, là, qui diffusait les programmes en continu. Et donc, il remonte vers minuit et demi, et il voit un truc grand comme ça, le film X, mais grand, grand, grand. Hein, tout. Et donc, il remonte avec le président de la République, il s'arrête devant. Et donc, André Rousselet a essayé de changer de chaîne, et il n'a jamais pu, il s'est énervé, il n'a jamais pu changer la chaîne. Voilà.
Et alors, quand on travaille naturellement à Canal+, c'est le poste que vous occupez à mesure de l'expansion de la chaîne, fatalement rencontré président. Et donc, vous avez rencontré Jacques Chirac, vous l'avez raconté, François Mitterrand également. Et alors, Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est un personnage à saute d'humeur. Parfois, il vous parle, parfois, il ne vous parle pas.
Oui, tout à fait. Il est très particulier. Donc, moi, je l'ai connu la première fois quand j'étais au PSG, parce que dans la tribune officielle, il y avait tous les élus de la région parisienne qui venaient, la gauche, la droite, évidemment, et tout le monde. Et puis, de temps en temps, pour me remercier de les recevoir, il m'invitait à déjeuner. Bon, OK, très bien, ça fait partie des relations normales. Et puis, Nicolas Sarkozy, quand j'ai déjeuné avec lui la première fois, il était à l'époque ministre, mais bon, il n'était pas encore en première ligne, quoi. Et je déjeune avec lui, puis il me dit, moi, je serai président de la République et tout. Ah bon, très bien. Et convaincu, vraiment, j'étais pas habitué, on n'est pas habitué à ça, quoi. Et je lui ai dit, si vous voulez, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça, ça m'intéresse de faire un bouquin avec vous. Donc, j'ai fait un bouquin avec lui, c'était en 94. Donc, je l'ai vu souvent, il était à Bercy, j'allais à Bercy tous les week-ends faire des interviews, donc j'ai fait ce bouquin avec lui. Donc, j'avais une relation avec lui. Et puis après, Après, je suis passé, la vie continue, sa vie continue, et donc on est resté en relation normale, mais sans, comme ça, quoi. Et puis après, donc il est devenu vraiment président de la République, donc il l'a fait. Et donc après dans les émissions, quand il vient dans les émissions, en télévision, il est en général très fort. Parce que c'est une génération de politiques aujourd'hui qui sont nés, pour qui la télé est un outil commun, pas comme Chirac était mal à l'aise en télé, Mitterrand, il fallait que ça soit sur mesure, etc. Et aujourd'hui, tous les politiques, ils sont plus à la télé qu'à l'Assemblée nationale la plupart du temps. Les débats se font à la télévision, ils sont à la télévision le matin, le midi, le soir, donc ils sont très à l'aise à la télévision. Donc Sarkozy, Nicolas Sarkozy en fait partie. Donc il aime bien montrer que c'est lui le chef, ou qu'il soit. Donc ça crée parfois des tensions, et j'en ai connu avec lui quelques-unes, effectivement.
Et quand il ne vous dit pas bonjour...
Oui. Une fois, je le recevais, c'était dans la campagne présidentielle 2007, et le Parisien m'appelle deux jours avant pour faire une interview, pour faire la promo de l'émission, quoi. Et ils me disent, vous avez fait un bouquin avec lui en 95, etc. Je dis, oui, d'accord, mais enfin bon, je le vois plus que vous, ce qui était vrai. Je le vois même beaucoup moins que la plupart des journalistes politiques, et même beaucoup moins. Et puis je dis en plus, et il a changé. Et là, il m'appelle à 6h30, à une demi-heure avant l'émission, il me dit, quoi, qu'est-ce que t'as dit? J'ai changé, etc. Et il me... comme si j'avais dit quelque chose de je sais pas quoi. Et le ton était extrêmement virulent. Ben, je dis, écoute, ton émission et tout. En plus, je viens à Canal+, j'aime pas cette... Enfin, il n'aime pas trop Canal+. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, le ton a monté. Et finalement, il est venu à l'émission et il ne m'a jamais regardé. Pendant 30 minutes, il ne m'a jamais regardé. J'étais au bout de la table, là il y avait Ariane Massenet, etc. Si vous connaissez l'émission, il ne parlait que là. Moi, je parlais, il ne m'a jamais regardé. Il ne m'a pas dit bonjour, pas dit au revoir. Et pour vous dire qu'il est comme il est, je le vois 8 jours après ailleurs. Il me dit, ça va et tout. C'était bien l'émission l'autre jour. Hein. Oui, bon, d'accord. Donc il avait zappé le problème. Mais il est assez coutumier de ça.
Mais alors, bon, c'est quand même curieux que vous passiez pour un type plutôt sympathique. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui ne vous a pas parlé, mais c'était dans une supérette, et ça, c'était...
Ah oui, Bernadette Chirac, quoi. Oui. Bernadette Chirac non plus n'aime pas Canal+, je crois que c'est... Mais c'est un amalgame avec les Guignols, parce que c'est vrai que les Guignols... voilà, bon. Les Guignols font leur boulot, et on est dans la même boîte, donc on est... voilà. Et c'est vrai qu'un soir, je rentrais après le Grand Journal vers 22h chez moi, et il y a une épicerie dans mon arrondissement qui est ouverte tard... Et je m'arrête à acheter un truc, et l'épicerie est toute petite. Hein. Et je suis tout seul, et rentre Bernadette Chirac. Donc j'ai dit bonsoir. Fait.
Voilà. Bon, on va écluser les rayons des présidents. De toute façon, il n'y en a pas quand même 48 000 qui ont connaître Canal+, mais il y en a un qui m'a fait également... ça m'a assez surpris d'ailleurs, parce que j'imaginais pas ça de lui. VGE, mais VGE, il est extrêmement dragueur encore.
Ah, oui, c'est un dragueur à l'ancienne. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il vient au Grand Journal, il vient à peu près une ou deux fois par an pour les questions
d'Europe. Malgré sa marionnette.
Oui. Et il vient et dès qu'il arrive, c'est où est la demoiselle de la météo. Et donc. Donc, ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer la demoiselle de la météo, qui changeait tous les 2 ans, et donc d'entrer en contact, de discuter, et il invite à dîner, et il invite, vous habitez où? Vous n'avez pas de voiture, je peux vous ramener, etc. Et il ne lâchait pas, et quand il avait fini à 8h moins 5, et nous on finissait à 8h30, il attendait 8h30, et il était toujours là, mais où est-elle? Je peux la ramener, etc. Donc, mais à ma connaissance, en vain. Mais elles peuvent toutes le certifier.
En dehors des présidents et des femmes de présidents, il y a également les acteurs. Alors là, le casting que vous trouvez dans le livre, ça ne fera pas lire n'importe quel blockbuster d'Hollywood, parce que vous avez vu à peu près tout.
Bah oui, avec le temps.
Et notamment une actrice qui débutait, qui n'était pas encore connue, et qui, dites-vous, alors je ne sais pas si vous vous croyez, mais je vous crois sur parole, qui est habillée à peu près comme dans la scène qui l'a rendue le plus célèbre, c'est Sharon Stone.
Ouais, enfin bon. Oui, chez Ronson, en fait, j'étais à.
Oui, c'est vrai.
J'étais à Cannes, ça fait 30 ans que je vais à Cannes, et là, 35 même maintenant. Et le, donc, j'étais là, la veille de la sortie de Basic Instinct. Donc, j'ai fait une interview, à l'époque, je travaillais pour RTL, et je fais une interview au Carlton de Michael Douglas et Sharon Stone, qui, à la veille de la sortie de Basic Instinct, était quasiment personne. Quoi. Elle était, c'était une actrice pas connue. Et donc, je fais Michael Douglas et Sharon Stone, et le lendemain, elle était Sharon Stone, voilà, elle ferait la projection du film. Mais là, moi, je l'avais vu en projection le matin, donc on était quelques journalistes à l'avoir vu. Tout. Et puis, je discute, et j'ai fait un compliment sur son anatomie. Et mais léger. Mais elle me dit non, non, non. Et donc, elle commence à dire, mais non, j'ai un gros cul et tout, regardez. Enfin, bon, elle se lève, et Michael Douglas tapote, il dit, non, non, c'est bien. Voilà.
Alors, dans la série des acteurs que vous avez rencontrés, puis naturellement, vous l'avez rencontré énormément, puisqu'ensuite, vous avez présidé, vous avez été le présentateur officiel du Festival de Cannes.
Oui, je suis producteur des cérémonies. Ouais.
Et producteur des cérémonies.
Aujourd'hui encore.
Et aujourd'hui encore, pardon, celui qui vous a peut-être le plus impressionné, celui par lequel commence votre séquence de rencontres, c'est Marlon Brando.
Oui. Alors, Marlon Brando, c'est pas à Cannes. En fait, là, c'est pareil. Il y a une époque où Canal+, comme dans toute entreprise, il y a des périodes fastes. Puis il y a eu un âge d'or qui s'est terminé en 2002 pour être que la chaîne redémarre après avec un nouveau management. Et donc, en 2001, on était dans l'âge d'or total. C'est-à-dire que Canal+, le groupe Vivendi, avait racheté les studios Universal à Hollywood. Donc, c'était énorme. Donc, Pierre Lescure était président des studios Universal. Donc, j'ai avec lui au moment des Oscars en 2001. Donc, je fais la semaine avec lui là-bas. Et avant les Oscars, il y a des parties, des dîners, plus ou moins, avec plus ou moins de monde, qui font qu'on voit à quel niveau vous êtes dans le cinéma mondial à ce moment-là. Enfin, c'est toute une hiérarchie, un protocole bien huilé et remis en question chaque année. Donc, moi, j'étais avec Pierre. Et donc, on était partout, puisqu'il était le patron des studios Universal. Et donc, la question, c'était...
C'était comment vous avez rencontré Marlon Brando.
Et donc, un soir, on est à un dîner chez un des plus grands producteurs, qui est Mike Medavoy, et à Mulholland Drive, et on est 40. C'est en l'honneur d'un président du Mexique, qui s'appelle Fox, à l'époque, et le président du Mexique est là, et tout le cinéma d'Hollywood, qui est assez hispano, donc est là en soutien. Donc, il y a Schwarzenegger, il y a Stallone, il y a Sharon Stone, il y a Salma Hayek, il y a De Niro, et je suis l'inconnu. Je suis le seul inconnu des 40 à table, plus les serveurs, et deux autres personnes que je ne connais pas, et que je vois, une femme et un jeune homme aussi. Donc, avant le dîner, il y a un apéritif quoi, dans un grand salon. Et donc, je vais spontanément vers la femme et le jeune homme qui parlait français, parce que je suis en anglais, je ne suis pas non plus au top. Et puis, les autres, ils ne savaient pas qui j'étais. Et donc, je vais vers cette femme qui me dit bonjour en français. Et en fait, c'est la femme de Brando, qui est... Marlon Brando était là aussi, évidemment. Et c'est la femme de Brando qui habite Tahiti et qui parlait français. Et son fils, qui regardait Canal+, et tout. Donc, impeccable. J'étais là, je passe la demi-heure à attendre, à papoter avec eux, tranquillement dans un coin, quoi. Et au moment de se mettre à table, Brando vient vers moi, il me dit, moi je ne l'avais jamais vu, hein, donc impressionné, il me dit, ici il n'y a que des mufles, personne, tout le monde a ignoré ma femme et mon fils, sauf vous, on se met tous les quatre sur une table et on dîne tous les quatre. Bon, très bien. Donc j'ai dîné avec Brando pendant 2 heures, avec lui et sa femme et son fils, et voilà, donc je raconte le dîner dans le bouquin.
Et vous avez demandé
à la fin, bon évidemment, j'ai... À la fin, mon boulot, c'est d'avoir des interviews. Donc, à la fin, je lui dis, mais voilà, est-ce qu'on pourrait, un jour, je peux vous faire venir à Cannes? Et il me dit, si, il faut régler un problème avant. Parce qu'il est sur une île à côté de Tahiti, enfin, cet hôtel est toujours là, qu'il a créé. Mais c'est un territoire français. Et il a un problème fiscal. Il me dit, donc, si tu m'as un rendez-vous avec Chirac et qu'il me règle mon problème fiscal, je fais toutes les interviews que tu veux. Donc en rentrant à Paris, j'ai appelé, bon, je connais un peu des gens dans le cabinet du président de la République, et je dis, voilà, je vous appelle, j'ai eu mon rendez-vous. Ah, vous aussi, mais ça fait 20 personnes qui nous appellent, etc. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, et j'ai rappelé Brando après, et j'ai jamais eu de réponse.
Alors, il y a une autre star que vous rencontrez, là, c'est assez curieux, parce que c'est également une très grande star... du cinéma français, mais vous le rencontrez dans une maternité.
Oui, c'est une des choses un peu personnelles que je raconte. Il y a, donc ma femme venait de mettre au monde ma première fille en avril 79. Et je marche comme tous les papas dans le couloir de la maternité. On est un peu... on attend. Et je croise quelqu'un, une femme en chemise de nuit qui venait d'accoucher. Et je me retourne. Elle se retourne. Et donc c'est Isabelle Adjani qui venait de mettre au monde son fils Barnabé. Voilà. Et qui me... Donc on échange quelques mots. Et puis elle me dit juste, je vous demande de... Vous ne m'avez jamais vu ici. Voilà. Donc j'ai jamais vu ici. J'ai attendu 35 ans pour le dire avec son autorisation.
Mais donc maintenant, nous le savons. Alors maintenant, on va passer aux stars et aux grandes jambes. Alors il y a une histoire proche qui m'a fait beaucoup marrer. C'est, ça dit, il y a beaucoup d'hommes qui vont vous envier. Vous rencontrez à la fois Estelle Lefébure et Adriana Carambeu et vous emmêlez les pinceaux. Alors comment vous vous débrouillez?
Ah oui. Enfin, je m'en mêle les pinceaux, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais en tout cas, c'était à Cannes. À Cannes, on travaille beaucoup et on se couche tard en même temps. Et donc, on dort peu. Et donc, le matin, on démarre moyen. Et donc, j'avais reçu Estelle Lefébure la veille. Le lendemain, on a une belle vie à ce moment-là. J'étais au Martinez, donc je descends dans le hall et je vois une grande blonde. Je vais la voir. Je lui dis merci pour l'émission d'hier. En plus, ça a bien marché. Je viens d'avoir les audiences et tout. Mais elle me dit que je n'étais pas à l'émission d'hier. Donc, j'ai confondu Adriana Carambeu et Estelle Lefébure. Et ça m'est arrivé deux fois.
Et ça, oui, parce que ça s'est pas arrêté là.
Oui, parce que Estelle Lefébure, une autre fois aussi aux Oscars à Hollywood, j'étais dans. Parce que j'y suis allé plusieurs fois pour mon travail. Donc, j'étais dans le. Les gens arrivent très tôt aux Oscars pour qu'il y ait une meilleure ambiance qu'au César, qui est toujours un peu froid. Aux Oscars, les gens d'abord sont obligés d'arriver très tôt, après c'est fermé, et on leur sert à boire tout ce qu'ils veulent. Donc ils sont plus détendus que s'ils n'avaient rien bu. Et donc je suis dans le hall avec tous les Américains, pareil, là, je suis comme tout le monde, personne ne me connaît et tout, et je vois une fille blonde vraiment jolie qui me fixe et tout, je dis, putain, incroyable, c'est pas grâce à la télé, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et elle me fixe, elle me sourit, je dis, bon, très bien. Et en fait, c'était elle aussi, c'était Estelle Lefébure cette fois-ci. Je pensais pas qu'elle était là, quoi.
Bon, autre chose qu'on sait peu de vous, c'est que vous avez été acteur.
Alors, oui, enfin, bref, on ne peut pas le savoir puisque ça, on l'a jamais vu, donc.
Mais quand même. et pas avec n'importe qui.
Non, en fait, j'étais ami avec Maurice Pialat, vraiment ami, et donc on se voyait souvent, on se parlait souvent. Et Maurice, c'est quelqu'un d'assez. Qui a un côté un peu pervers, et, enfin pervers soft, hein, mais, et donc qui aime bien vriller un peu les gens, et donc il me faisait toujours croire que j'étais fait pour être acteur, alors que je suis convaincu que non, là, vraiment, c'est pas de la fausse modestie. Et donc j'ai fait les essais, j'ai fait plus que les essais pour dans Sous le soleil de Satan. Je devais tourner un rôle avec Sandrine Bonner, donc. Et j'ai fait le costume, la visite médicale, enfin tout. Au moment où je devais tourner, le tournage s'est arrêté pendant 15 jours. Et à l'époque, je faisais une émission quotidienne. Je n'ai pas pu reprendre derrière. Donc après, il y a 5 acteurs qui ont fait le rôle. Et finalement, c'est un technicien qui joue dans ce film qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Donc quand j'ai vu le film avoir la Palme d'Or, ça aurait quand même été une imposture majeure si je m'étais retrouvé là-dedans. Et puis, ce qui s'est avéré être la fin de sa vie, mais on ne le savait pas, son dernier film, Le Garceau, il m'appelle aussi. Et il me dit, est-ce que tu peux venir demain tourner une scène avec Gérard? Bon, il sait qu'on se connaît, évidemment. Et ben, je dis, oui, si tu veux, demain, je viens. Je dis, c'est pas compliqué, parce que j'ai du boulot et tout, je peux pas. C'est l'après-midi, OK, très bien. Il me dit, t'as 4 lignes, 10 lignes, 20 lignes à apprendre, c'est bon. Donc, il me dit, c'est un rôle de notaire, ça te va bien. Et puis, il commence à me vanner, t'es qu'un notaire de province, de toute façon, etc. Bon, très bien. Je dis, ouais, OK. Et donc, j'arrive. Et donc Gérard était mon vis-à-vis. Et je regarde, donc, c'était quelqu'un qui venait chez le notaire pour un problème d'héritage classique. Et donc, le tournage commence. Et Gérard s'assied en face de moi, me fixe bien. Et lui, il était hors champ. Vous voyez, moi, je l'accueille un soir. Et je vais vous raconter tel quel. Hein, je n'ai pas trouvé des mots plus légers. Donc, je commence et Gérard pète. Et une fois, deux fois, trois fois, je dis, c'est pas possible. Et il me fixait comme si de rien n'était. Bon, voilà. Et donc j'éclate de rire au bout de 30 secondes, comme c'est quand même le truc qui fait rire depuis le début du monde, ça finit toujours par faire rire. Donc on arrête, on recommence, et il recommence. On a fait deux prises comme ça, et elle finit par faire la troisième prise. Et finalement, donc je ne suis pas dans le film. Je suis dans le bonus DVD. Et Piala, qui est bien me chambrer, me dit, écoute, je ne t'ai pas mis parce que Gérard était tellement mauvais que ce n'était pas bon pour lui.
Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces anecdotes qu'on voit raconter à propos de Piala, on découvre quelqu'un qui est beaucoup plus touchant que ce qu'on imaginait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vit un peu dans le monde de la télévision, de l'apparence... Les choses doivent aller vite en télé, donc les gens viennent pour faire ou une promotion ou une communication. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de ça maintenant. Et donc, on perçoit pas forcément les gens tels qu'ils sont et tels qu'ils veulent se montrer non plus, parce que beaucoup n'ont pas envie qu'on sache qui ils sont. Il y a beaucoup qui s'exposent, mais ça, c'est un autre métier, qui s'exposent à outrance. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de s'exposer. Et Maurice était quelqu'un de très, que j'aime beaucoup et qui est très touchant. Et sa femme Sylvie aujourd'hui, qui est productrice et d'une énergie extraordinaire. Et il faisait un couple très créatif, un peu volcanique, mais très créatif, atypique, un peu hors norme. Et ça, à l'époque, avec Toscan Duplantier comme producteur et tout, c'était une forme de cinéma et de collaboration que j'aimais beaucoup et qui faisait des résultats magnifiques.
Moi, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait eu cette relation assez fraternelle, quoi, et puis en même temps assez complice. Quoi,
ouais, ouais.
Vous aviez avec lui.
Oui, tout à fait. On a échangé sur tout. Il était excessif, il aimait provoquer. Un jour, je faisais une émission qui s'appelait Mon Zénith à moi. Je recevais un invité pendant une heure le week-end. Je l'avais fait avec lui, je l'ai fait avec beaucoup de gens. Et un dimanche, il m'appelle à 13h30 après la projection. Il me dit, c'est plus la peine de me parler. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais tu reçois n'importe qui. Je dis, ah bon. Bah, franchement, j'ai reçu Luc Besson. De la merde, il me fait de la merde. Mais bon, tout ça, il n'en pense pas la moitié. Et enfin, peut-être que ce jour-là, mais je ne sais pas. Mais quand il avait tourné Loulou avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, une nuit, il appelle Gérard pendant le tournage. Gérard dormait, 3h du matin. Il appelle Gérard. Gérard dit, ouais, c'est Maurice, mais qu'est-ce que tu m'appelles à cette heure-là? Il dit, je suis au montage, en train de monter la séquence. Et Gérard dit, oui, d'accord, enfin, moi, je dors. Oui, non, mais je t'appelle parce que Isabelle Huppert, c'est vraiment de la merde, quoi. Et Gérard dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que toi, t'es pire. Il raccroche. Voilà, donc c'était ça aussi, mais bon, après, c'est...
J'ai encore deux rencontres à évoquer. Alors, il y en a une, c'est... Enfin, même peut-être trois. D'abord, premièrement, ce qu'on ne sait pas non plus, mais qu'on découvre dans le livre, c'est que vous avez été reporter de guerre, et puis dans un endroit qui n'était pas...
Pas longtemps.
Pas longtemps, certes, ouais. Mais vous l'étiez quand même. Ouais. Et dans un endroit qui n'est pas l'un des plus confortables quand on connaît le genre de situation, c'est en Tchétchénie. Et surtout dans une voiture qui n'avait pas de plancher.
Pas de plancher, oui, j'aime ça, oui. En fait, je préparais un documentaire sur le général Liebed, qui était à l'époque un potentiel président de la Russie. C'était un peu compliqué. Le pouvoir en place ne lui facilitait pas les choses. Et j'avais avec moi, je travaillais avec l'agence CAPA et une journaliste, Manon Loiseau, qui est reporter de guerre, qui est spécialiste dans tout ce secteur du monde en particulier. Et donc, à un moment donné, on me dit... C'est une fille formidable. Et donc, à un moment donné, Liebed, je l'attendais à Moscou et puis il n'est plus à Moscou. Et j'étais un peu suivi, normal, quoi, parce que c'est même Jacques Attali qui m'avait dit au début... vous serez suivi tout le temps, etc. Et bon, OK. Et donc, pas moyen de voir Liebed à Moscou. Et par les canaux successifs, on me dit, donc, si vous voulez le voir, il faut aller à Grozny. Il est à Grozny pendant 4 jours. Donc, on organise un voyage. Je pars tout seul. Donc, je me rendais pas bien compte. Donc, je me pose en Ingouchie à côté, parce qu'il n'y a plus d'aéroport à Grozny. Et puis là, Manon me dit, après, il y a des voitures là qui t'emmèneront à Grozny. Bon, j'arrive. Ah, Grozny, je vois des taxis, je vois pas de taxis, je vois des voitures, je vois vraiment des cadavres de bagnoles. Et c'est ça, les taxis, ah bon, très bien. Et donc, je monte derrière et il n'y avait pas de plancher. Et plus rien, on voyait la route partout, il y avait les machins, tout. Et puis, on se faisait arrêter tous les 15 ou 20 kilomètres dans des barrages avec des jeunes mecs armés qui me prenaient mon passeport. Je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Je ne me sentais pas très... J'avais des portables, rien. Donc, j'étais content quand je suis déjà arrivé à Grozny. Et après, j'ai passé plusieurs jours là-bas, effectivement, et j'ai vu ce que c'était que les vrais reporters de guerre. J'ai vécu avec eux pendant quelques jours, donc c'est pas, il n'y a rien d'héroïque en ce qui me concerne, mais j'ai vu ce que c'était, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font ça, parce que c'est un métier à la fois dangereux, qui demande beaucoup plus d'humilité que nous, on en a, je pense. En général, je fais un hommage aux femmes à cette occasion, mais sur les reporters de guerre, vous remarquerez, quand il y a des points chauds, même à la télé, la plupart du temps, c'est des femmes qui sont, c'est pas les... Ce qu'on, nous, on est un peu trop fanfaron, et peut-être, et c'est pas des jobs, c'est des jobs de passion et de courage, et il y a beaucoup de femmes. Donc j'ai passé 3 jours là-bas, j'ai eu la pétoche beaucoup, parce que je me suis retrouvé dans des contextes, je ne me rendais pas compte, quoi. Donc je m'en suis rendu compte après coup, en rentrant à Moscou, j'ai beaucoup bu pour me remettre.
Mais il y a une autre rencontre, dont je ne sais pas si elle était dangereuse ou pas, mais manifestement la tension qui présidait nous a laissé quelques souvenirs, et peut-être même quelques sueurs froides. C'est quand vous avez rencontré Tyson.
Oui, ça c'est différent, ouais. C'est vrai qu'il y a des rencontres exceptionnelles dans nos métiers et qui ne sont pas faciles à décrire. Je fais un parallèle qui est toujours surprend un peu, c'est qu'il y a des gens qui sont habités par ce qu'ils sont et qui dégagent quelque chose qui est difficile à décrire, qu'on palpe comme si c'était une radiation qui s'émanait d'eux. Bon, alors j'en ai deux qui sont vraiment dans des domaines très différents. Pour la spiritualité, c'est le Dalai Lama. J'ai passé 8 jours à Dharamsala en Inde, dans l'Himalaya, avec son gouvernement en exil, et la rencontre avec le Dalai Lama, je ne suis pas tibétain, je ne suis pas bouddhiste, donc m'a beaucoup marqué. Toute l'équipe qui était avec moi, c'était pareil. Il dégage quelque chose d'extraordinaire. On est, ça peut paraître naïf, mais je ne suis pas trop, on est comme illuminé par sa personne. Ça, c'est une chose, par la spiritualité. Tyson, on est... Tyson, il tape pas sur les gens toute la journée. Donc j'étais allé le voir à une époque où il avait fait son premier séjour en prison et il revenait à la boxe. Et il avait choisi de s'entraîner à Phoenix, dans l'Arizona, dans une salle de boxe miteuse pour se remettre dans le truc de la boxe dure, quoi. Et donc j'ai rencontré là-bas. Et c'est pareil, quand il arrive, même s'il fait un sourire, on fait 2 pas en arrière, quoi. Mais non pas qu'on a peur, mais on dit, c'est comme si avant lui, il y avait déjà des ondes de puissance et d'un peu de violence. Et c'est très particulier, c'est pas facile à décrire, mais c'est des choses extraordinaires. Voilà.
Bien, alors aujourd'hui, vous vous occupez de Vanity Fair,
oui.
Qui est je le dis parce que je ne sais pas si vous le lisez, moi je le lis, je trouve que c'est un très bon journal.
Merci.
J'aime beaucoup ce journal. Et est-ce que vous voyez ça, cette vie que vous avez eue, ces rencontres que vous avez eues, est-ce que vous voyez ça avec un peu de distance, ça vous amuse toujours ou vous en servez pour votre journal?
Oui, je m'en sers, évidemment, parce que je noue des contacts avec les gens. C'est vrai que mon vécu est utile au journal assez souvent pour avoir des contacts, des relations. Quand je parle relations, c'est d'entrer en contact pour faire son travail, ça va pas au-delà. Mais c'est utile. Et c'est arrivé un moment inattendu pour moi, parce que bon, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, je suis un peu allé le chercher. Et là, c'est arrivé tout seul, donc j'ai mis du temps. Mais c'est arrivé tout seul. Et pour Vanity Fair, c'est une marque mythique et prestigieuse dans la presse, quoi. C'est un magazine qui a un siècle aux États-Unis, qui a une puissance éditoriale énorme. Donc c'est le même groupe américain qui est propriétaire, qui a ouvert le Vanity Fair français après une étude de marché très approfondie. On a fait 4 numéros 0, etc., etc. Et donc ça fonctionne bien. On vend aujourd'hui 100 000 exemplaires par mois, ce qui est dans le contexte actuel. Et c'est en plus au-dessus de nos objectifs. Et j'ai une très bonne équipe avec moi, parce que moi j'étais débutant dans ce type de presse. Et j'ai une bonne équipe avec moi. Voilà.
Bien, écoutez, merci. J'aurais encore beaucoup de choses à dire. On ne va pas y passer la nuit. Il y a des rencontres avec, quand vous êtes convoqué par la brigade financière, il y a...
Ah oui.
Quelqu'un d'autre chose. Alors, d'abord, on va commencer par remercier Michel Denis.
Merci beaucoup,
Michel.
Merci.